Alors, pourquoi j'ai posé cette question? Parce qu'on parle beaucoup de vie spirituelle, mais quelquefois, pour certaines personnes, la vie spirituelle, derrière le mot vie spirituelle, en tout cas, on peut mettre des choses assez diverses, mais ce n'est pas forcément une vie spirituelle chrétienne. Et pour avoir une vie spirituelle chrétienne, ben, je pense que ça passe par l'écoute de la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement l'écoute de son intériorité ou même de la nature ou... je suis pas contre, hein, mais voilà, ou vivre des valeurs humaines. Alors, ChatGPT développe un petit peu, hein, voilà. Mais je vais pas passer mon heure là-dessus. Mais voilà, et on voit en tout cas Marie, la Sainte Vierge, c'est pas une vie spirituelle déconnectée du Bon Dieu, hein, ça va de soi. Alors, de fait, il y a beaucoup de liens entre Marie et la Parole de Dieu. Bon, elle a accueilli le Verbe de Dieu, hein, dans sa chair. Donc ça, et saint Augustin dit « Marie a conçu par son esprit et sa foi avant de le concevoir par son corps. Elle est notre modèle pour accueillir la parole. Qu'il me soit fait selon ta parole, hein, à l'Annonciation. » Ou après la visitation, c'est Élisabeth qui dit « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles » qui lui furent dites de la part du Seigneur. Voilà. En tout cas, donc, Marie, elle est, comme dans l'Évangile, elle est présente à des moments déterminants dans l'Évangile. Ça aurait pu être une autre manière de faire votre lectio, une autre piste. C'est à quel moment on parle de Marie dans l'Évangile, dans la parole de Dieu? Ben, c'est intéressant de voir ça, parce que c'est des moments assez déterminants, quand même. Hein, si vous regardez, voilà. Et voilà. En tout cas, la finalité de cette halte spirituelle, c'est de mieux accueillir la parole de Dieu. Alors, par hasard, j'ai trouvé trois parties. Bon, après, on divise comme on peut, hein, mais une partie plus avec trois préliminaires, plus pour accueillir la parole de Dieu. Alors, ces préliminaires, c'est... Alors déjà, le fait d'écouter, parce que on a beau parler, mais si personne n'écoute, hein, c'est un peu décourageant quelquefois. Et faire un deuxième préliminaire, ça sera entre parole de Dieu et écriture sainte. Quel est le lien entre parole de Dieu et écriture sainte? Parce que c'est la Bible. Oui et non. Alors, du coup, pour clarifier un peu nos idées là-dessus, hein, et puis le troisième préliminaire, ça sera justement par rapport à l'exégèse, hein, ce grand mot. Tous ceux qui travaillent sur la parole de Dieu, voir la place de l'exégèse, l'importance de l'exégèse, même si on n'est pas appelé à être des grands exégètes. Voilà. Ça sera les préliminaires. Après, il y aura... une deuxième partie sur l'écoute de la parole de Dieu dans deux lieux principaux, la liturgie et la lectio divina. Je ne serai pas très long sur la liturgie, mais c'est très important. Et puis, troisième partie, c'est écouter, c'est bien, mais comment on répond à la parole de Dieu. Voilà, ça va? Donc, les préliminaires, l'écoute et la réponse. Ça va? Vous êtes prêtes? Alors... donc, d'abord, sur l'écoute en général, il y aurait des milliers de choses à dire. Hein, donc, ça sera forcément succinct ce que je vous dirai sur l'écoute. Mais l'écoute est... alors, je prends Romains 10, 17. La foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. La foi naît de l'écoute. Alors, on parlera, notre réponse à la parole, c'est aussi de réagir avec foi. Vous vous rappelez aussi que le pape François a désiré un dimanche de la parole de Dieu, hein, c'est le troisième dimanche du temps ordinaire, si mes souvenirs sont bons, hein, c'est au mois de janvier, là, vers le 20 et quelques janvier. Donc, et il a voulu ça justement pour qu'on ait plus à cœur cette écoute de la parole de Dieu, qu'on la mette davantage à l'honneur. On a lu dans l'évangile de Saint-Luc, il n'y a pas très très longtemps, c'était le « Faites donc attention à comment vous écoutez, à la manière dont vous écoutez. » Et on voit bien que ce n'est pas uniquement une écoute. Bon, moi j'ai des appareils parce que je suis au moins des sourds, mais quelquefois on est sourd de cœur aussi. On peut avoir les deux en même temps, hein, Et la prière du roi Salomon, c'est « Donne-moi un cœur qui écoute ». Ce n'était pas des oreilles, ou les oreilles du cœur peut-être. Mais voilà. Donc on voit que l'écoute, ça englobe beaucoup plus que les oreilles, etc. Saint François d'Assise parlait de « incliner l'oreille du cœur ». Alors, quelques attitudes pour écouter. Finalement, ces attitudes, on les retrouvera peut-être aussi dans la Lectio Divina, hein, mais le contexte, pour écouter, il faut un minimum de silence. C'est compliqué ou d'être un peu posé. Si on va trop vite, on a du mal à écouter. Alors c'est le bruit matériel, mais c'est aussi le bruit intérieur, etc. C'est le fait de prendre du temps pour écouter, ça prend du temps pour écouter. Si on est trop pressé, on a du mal à écouter. Une autre disposition, on l'a déjà évoqué, l'attitude de foi. Ça veut dire que dans l'écoute, il y a une forme de décentrement de soi. Si je suis trop centré sur moi-même, j'ai du mal à écouter. Est-ce que l'autre peut m'apporter quelque chose ou pas? Ou est-ce que je suis très désintéressé dans mon écoute? J'écoute ce qui m'intéresse et puis ce qui ne m'intéresse pas, je le laisse de côté. Ou est-ce que j'écoute vraiment la personne et j'écoute Dieu? Il y a aussi une écoute active. Bon, il y a aussi une ouverture d'esprit pour l'écoute. Quelquefois, on a une écoute quand même assez sélective. Quand c'est trop différent de nos idées, le filtre, ça reste à l'extérieur. Alors, je pense en réunion de communauté, mais je vous dévoile pas de secret, hein. Il n'y a personne qui écoute. En réunion de communauté, j'apprends, hein, j'ai encore du chemin à faire, mais au début, quand il y avait des réunions de communauté, on devait débattre d'un sujet, j'en ai un très présent à l'esprit. De mon point de vue, il y avait des choses qui étaient un peu stupides, disons-le, un peu farfelues. J'ai dit non. Alors, ma tentation, c'était de couper assez vite. Non, on arrête de dire des bêtises et puis on va plus droit au but. Mais je me suis aperçu que ce n'était pas la bonne méthode. Il fallait que j'écoute, même ce qui, de mon point de vue, me semblait un peu farfelu. Et puis, en fait, dans un deuxième temps, les choses se rééquilibrent et finalement, on arrive à quelque chose d'un peu sensé. Je vous dis comme je... Mais ce n'est pas toujours le cas, hein, mais c'est quelquefois arrivé. Mais du coup, c'est important parce que d'écouter même ce qui nous dérange. Parce que peut-être c'est moi qui trouve ça farfelu, mais c'est peut-être pas farfelu dans l'absolu. C'est peut-être dans ma subjectivité que c'est farfelu. Donc de prendre le temps et puis de voir les choses se répondre, les personnes se répondre, je trouve que c'est intéressant. Toujours l'écoute, quelquefois on ne peut pas écouter quand on a... Quand on n'a pas pardonné à quelqu'un ou tout ça, c'est compliqué d'écouter vraiment. Hein, on voit que intérieurement, on peut être un peu plus fermé à certaines personnes qu'à d'autres. Bon, ça, je crois que c'est assez classique. Mais ça dépend d'une attitude intérieure. Quelle est une fermeture de cœur qui fait que peut-être je ne suis pas très, très disposé. On le voit bien. Hein, si c'est telle personne qui dit quelque chose, ça passe. Si c'est telle autre personne qui dit la même chose matériellement, non, ça ne passe pas. C'est plutôt le lien interpersonnel qui est en question, ce n'est pas ce que la personne dit. Hein, mais on voit bien ça, c'est classique. Hein, et du coup, voilà. Alors, quelques dispositions pour écouter. Et c'est assez rapide, hein, cette idée. Trois obstacles pour une bonne écoute. Bon. Et la présomption. On pense déjà tout savoir, donc pas la peine d'écouter. L'autre n'apportera rien. Alors, je vous cite un verset des Proverbes. Qui répond avant d'avoir écouté montre sa bêtise et se couvre de ridicule. Alors, présomption, impatience. Alors, quelquefois, on n'attend pas, ça nous arrive tous, on n'attend pas que l'autre aille jusqu'au bout de ce qu'il a à dire. Donc, on est impatient. Allez, viens au fait, et puis, voilà. Alors, encore un autre proverbe. Si tu rencontres quelqu'un qui parle sans réfléchir, sache qu'il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Mais en tout cas, l'impatience. Quelquefois, on a du mal à attendre que l'autre dise vraiment, aille jusqu'au bout de sa pensée. Et l'orgueil, ça rejoint un peu la présomption. Le sot, encore un proverbe, le sot estime toujours qu'il agit correctement. L'homme sensé accepte les conseils. Et du coup, en fait, on peut apprendre beaucoup de gens. Dans la mesure où on est dans cette posture d'écoute et de voilà. À propos de l'écoute, peut-être un tout petit mot. Vous voyez comment se différencient la théologie et la philosophie. Vous avez peut-être l'impression que je passe du coq à l'âne, mais ces deux démarches inverses ou complètement différentes. La philosophie, vous essayez de réfléchir à partir de ce que vous voyez, ce que vous essayez de comprendre comment ça fonctionne. Le point de départ de la théologie, c'est complètement différent. On part de ce que Dieu a dit, de la révélation, et on essaie de comprendre ce que Dieu nous a dit. Donc, vous sentez que c'est pas du tout... dans un cas, on essaie de comprendre, et dans le meilleur des cas, on va vers Dieu. Dans l'autre cas, c'est Dieu qui s'est révélé, et on essaie de comprendre ce qu'il nous dit. C'est ça la théologie, c'est comprendre, mettre des mots, des concepts sur ce que Dieu nous a dit, mais la transsubstantiation, au début, comprendre comment Jésus était présent, ben voilà, Saint-Pierre n'aurait pas pu faire un cours de théologie au chapitre 6 de Saint-Jean. Confusement, ben oui, t'as les paroles de la vie éternelle, mais après, il n'aurait pas su expliquer comment ça pouvait... Et il a fallu quand même quelques siècles pour mieux comprendre comment ça, mettre des mots, et etc. Voilà. Alors du coup, vous voyez, la démarche de la théologie, c'est vraiment une démarche d'écoute profonde de la parole de Dieu, essayer avec nos mots humains de rendre compte du mystère de Dieu, tel qu'il nous a été révélé par sa parole. Voilà. Ça, c'était... le premier point du grand point, du premier grand point. Je ne vous ai pas encore perdu, ça va. Le deuxième point, c'est le lien entre la parole de Dieu et l'écriture sainte. Je suis dans le deuxième préliminaire, là. Parole de Dieu et écriture sainte. Bon, il y a un lien étroit. C'est saint Jérôme qui nous y dit, par exemple, « Ignorer les écritures, c'est ignorer le Christ ». Donc, c'est quand même un encouragement, quand même, à se plonger dans l'écriture, et c'est saint Jérôme qui a traduit la Bible en latin, hein, la Vulgate, donc il était vraiment plongé dans l'écriture. Ce qui est intéressant, c'est que, pour connaître Dieu, connaître ce que Dieu attend d'elle, Thérèse de Lisieux, je me référais à elle plusieurs fois pendant cette heure, et son réflexe, c'est vraiment de se tourner vers la parole de Dieu. Alors, je peux vous citer quelques passages. Voilà. Alors, elle parle aussi de l'imitation de Jésus-Christ, mais alors... Elle parle d'abord qu'à l'âge de 17-18 ans, je n'avais pas d'autre nourriture spirituelle que Saint Jean de la Croix. Je ne sais pas si c'est votre cas, c'est pas mon cas. Mais plus tard, tous les livres me laissèrent dans l'aridité, et je suis encore dans cet état. Dans cette impuissance, l'écriture sainte et l'imitation de Jésus-Christ viennent à mon secours. En elle, je trouve une nourriture solide et toute pure, mais c'est par-dessus tout l'Évangile qui m'entretient dans mes oraisons. En lui, je trouve tout ce qui m'est nécessaire. J'y découvre toujours de nouvelles lumières, des sens cachés et mystérieux. Donc, elle en parle assez souvent. Thérèse de Lisieux est assez connue justement pour sa fréquentation des Écritures et en particulier des Évangiles. Bon, je passe, je reviendrai encore après sur elle. Mais alors donc, il y a un lien étroit entre l'Écriture et la Parole de Dieu, mais il faut pas identifier trop rapidement la Parole de Dieu et l'Écriture sainte. Alors, je vous donne trois raisons encore. J'aime bien hein, ça. La première, c'est que la Parole de Dieu, c'est avant tout Jésus lui-même, le Verbe de Dieu. Ça veut dire que la Parole de Dieu ne se limite pas au texte écrit. Ça ne limite pas à la Bible. C'est beaucoup plus. La Parole de Dieu est beaucoup plus que la Bible. Jésus est beaucoup plus que la Bible. Alors, après, on apprend à connaître Jésus dans la Bible, etc. Mais voilà ce que dit le catéchisme. À travers toutes les paroles de l'Écriture sainte, Dieu ne dit qu'une seule parole, son Verbe unique en qui il se dit tout entier. Ou encore, toujours le catéchisme. Toute l'écriture divine n'est qu'un seul livre, et ce seul livre, c'est le Christ. Car toute l'écriture divine parle du Christ, et toute l'écriture divine s'accomplit dans le Christ. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que il y en a qui parlent des religions du livre. Et les catholiques n'aiment pas qu'on applique ce terme pour les catholiques. Parce que nous, ce n'est pas un livre. C'est Jésus. Ce n'est pas la même chose. Alors, je vous cite encore, ça doit être encore le catéchisme, je pense. La foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Le christianisme est la religion de la parole de Dieu, non d'un Verbe écrit et muet, mais du Verbe incarné et vivant. Donc, voilà, donc, pour distinguer un petit peu l'Écriture sainte et la parole de Dieu. La parole de Dieu est supérieure à l'Écriture sainte. Alors, elle se manifeste dans l'Écriture sainte, hein, mais de pas trop vite identifier. Ça, c'était une première raison. Une deuxième raison, en particulier pour l'Église catholique, on ne sépare jamais l'Écriture sainte de la tradition et du magistère. Parce que l'Écriture, elle nous est transmise par une tradition. Et le Concile Vatican II, il y a un document du Vatican II, la parole de Dieu, Dei Verbum. C'est un très beau document qui a remis à l'honneur peut-être davantage la parole de Dieu, mais il insiste beaucoup pour dire, voilà, la parole de Dieu nous parvient pas seulement dans l'Écriture sainte, mais aussi par la tradition, pas seulement par la Bible, mais aussi par la tradition. Un adage des protestants, surtout dans les débuts, c'est « sola scriptura », seulement l'Écriture. Mais non, pour les catholiques, c'est pas « sola scriptura », c'est une Écriture qui nous est transmise par la tradition, et qui est interprété par le magistère. Ça, c'est pour ça, c'est une autre raison pour laquelle c'est bien de distinguer un petit peu Écriture sainte et Parole de Dieu. Ce n'est pas exactement la même chose. La Parole de Dieu, c'est, encore une fois, c'est plus large que l'Écriture sainte. Voilà, je ne vais pas développer trop, mais il y aurait plein de citations, mais alors, encore une fois, comme dit je crois que c'est Dei Verbum, ou non, peut-être le catéchisme, le magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il la sert. Hein, il est au service de la parole de Dieu, alors, ou encore autre citation, il est donc clair que la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux, qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres et que tout ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit Saint, contribue efficacement au salut des âmes. Donc ça, c'est d'abord trois raisons pour lesquelles il ne faut pas identifier trop, de manière trop raccourcie, on pourrait dire, la parole de Dieu et l'Écriture sainte. Donc c'est d'abord Jésus, la parole substantielle, on pourrait dire. Après, voilà, l'Écriture sainte va de pair avec la tradition et le magistère. Et puis troisième raison, Dieu il peut nous parler en dehors de l'Écriture aussi. Et il nous parle, alors je vous prends quelques. Oui, alors il nous parle dans la prière, alors c'est une autre manière, mais il nous parle vraiment dans la prière aussi, Dieu. Il nous parle dans les sacrements, quand le prêtre vous dit, je te pardonne tous tes péchés, c'est Dieu qui vous parle, au-delà du prêtre. Quand il nous parle par les événements de notre vie, heureux ou quelquefois malheureux, mais bon. Dieu nous parle aussi par les événements, il nous parle dans la voix de notre conscience. Non, ça c'est pas très bien. Jésus va te punir. Ou alors, il nous parle par les autres personnes, il nous parle dans la création, et il y a les inspirations de l'Esprit Saint. Donc, pour dire que l'Écriture sainte, je ne veux pas diminuer l'importance de l'Écriture sainte, mais que Dieu nous parle pas seulement par l'Écriture sainte. Hein, mais la parole de Dieu est plus large que les. Et heureusement que Dieu ne nous parle pas seulement dans l'Écriture sainte, mais encore une fois, je ne vais pas du tout diminuer, mais simplement remettre les choses un petit peu à leur place pour y voir un peu plus clair. Voilà. Alors, ça, c'était le deuxième préliminaire, c'était le lien entre la parole de Dieu et l'Écriture sainte. À la fois, il y a un lien très étroit et à la fois, ce n'est pas la même chose. Et troisième point dans les préliminaires, un autre point important, c'est l'exégèse. C'est aussi de bien voir comment ça fonctionne, si je peux m'exprimer ainsi. D'abord, l'écriture, la Sainte Écriture est inspirée par Dieu. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que c'était important aussi d'invoquer l'Esprit Saint pour lire l'Écriture sainte. C'est lui qui a inspiré les auteurs et nous qui nous inspire à l'autre bout de la chaîne, si je peux dire, pour comprendre ce que l'Esprit Saint a voulu dire dans ses paroles. Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas limitée, mais là, elle vient comme s'enfermer dans des mots humains, dans une culture particulière, hein, et en hébreu, en grec. Je ne sais pas si vous êtes très familier, mais même si vous étiez familier, ben voilà, ça réduit en quelque sorte la parole de Dieu. Hein, sitôt que ça devient concret, ben voilà. Alors c'est vraiment Dieu qui est l'auteur de l'Écriture sainte. Alors, je vous lis Dei Verbum, c'est un document du Concile Vatican II. Notre Sainte Mère l'Église, de par sa foi apostolique, juge sacré et canonique tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Peut-être un tout petit mot au passage, le canon de l'Écriture aussi. Vous savez que il y a eu un temps un petit peu de flottement, on va dire. Qu'est-ce qu'on reconnaît comme parole de Dieu, comme écriture sainte? Donc, la révélation est close à la mort du dernier apôtre. Mais donc, à un certain moment, oui, il y a une décision par l'Église de reconnaître tel document comme authentique, comme parole de Dieu, et tel autre document qu'on a considéré que ce n'était pas la parole de Dieu. Par exemple, je reviens à Cana. Cana, dans les commentaires, certains ont dit, mais c'est la preuve, Cana, que Jésus n'avait pas fait de miracle avant, hein, parce que c'est le premier signe. Mais si vous allez dans certains protévangiles, hein, des évangiles apocryphes, Jésus, il faisait des miracles. Dans la cour de récréation, il modelait un petit oiseau, il soufflait dessus et puis l'oiseau s'envolait. Mais l'Église n'a pas reconnu comme canonique. Donc, elle a fait un tri dans toute la littérature qui circulait en disant ça oui, ça non. Donc, il y a eu aussi ce moment pour reconnaître ce que dit le Concile, que certains livres ont Dieu pour auteur. Alors, c'est pas de l'écriture automatique non plus, hein, quand les auteurs ont écrit, ils ont été inspirés, mais ça, c'est votre expérience aussi dans la vie spirituelle. Il y a des choses, quand on est inspiré par Dieu, quelquefois il y a 30% qui vient de Dieu et 70% de nous, quelquefois c'est le contraire. Mais on voit un auteur comme Isaïe, c'est quand même impressionnant. Comment il a pu nous transmettre des choses à la fois sur Noël et sur la passion de Jésus. C'est impressionnant. Lui, c'était plutôt 95. il ne s'agit pas de faire des proportions, mais simplement de dire que, voilà, chacun a écrit avec sa culture ou son manque de culture. Hein, Saint-Luc est plus cultivé que Saint-Marc. Chacun a écrit comme il était. Mais ce qu'il nous donne, c'est une parole de Dieu, c'est vraiment un texte inspiré. Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit qui la fit rédiger. Alors justement, l'Écriture est inspirée, et c'est pour ça que le travail des exégètes est très important, donc je ne veux pas du tout le déprécier. Mais en même temps, un exégète doit être habité par la foi. Alors c'est Thérèse de Lisieux qui dit « je pourrais rendre jaloux des exégètes », grosso modo elle dit ça. Jésus s'écriait dans un transport de joie, je vous lis Sainte Thérèse. « Mon Père, je vous bénis de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents et que vous les avez révélées aux plus petits. » Et il voulait faire éclater en moi sa miséricorde. Parce que j'étais petit et faible, il s'abaissait vers moi, il m'instruisait en secret des choses de son amour. Ah, si les savants ayant passé leur vie dans l'étude étaient venus m'interroger, sans doute auraient-ils été étonnés de voir une enfant de 14 ans comprendre les secrets de la perfection, secrets que toute leur science ne peut leur découvrir, puisque pour les posséder, il faut être pauvre d'esprit. Hein, donc c'est aussi dans cette attitude qu'on aborde la parole de Dieu. Alors c'est pour ça que Thérèse de Lisieux a été proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II. Hein, parce que, voilà, c'était pas une exégète dans le sens, elle a pas fait. Elle aurait aimé faire du grec et de l'hébreu pour s'approcher au plus près du texte. Voilà. Alors, donc, la Sainte Écriture est inspirée. Et en même temps, elle a une dimension très humaine. Comme le dit le Concile, Dieu parle à l'homme à la manière des hommes. Pour bien interpréter l'Écriture, il faut donc être attentif à ce que les auteurs humains ont vraiment voulu affirmer et à ce que Dieu a bien voulu nous manifester par leurs paroles. Du coup, il faut se remettre dans la peau, en quelque sorte, de l'auteur de tel livre biblique pour voir qu'est-ce qu'il a voulu nous dire quand il a dit ça. Donc, du coup, ça, c'est un gros travail des exégètes, parce que nous, sinon, on n'est plus du tout dans la même culture, etc. Donc, on peut faire des graves contresens. Donc, c'est un travail très précieux des exégètes pour se remettre, en quelque sorte, dans la peau de l'auteur humain, pour voir qu'est-ce qu'il a voulu dire en mettant ces mots-là, qu'est-ce qu'il a voulu... voilà. Et voilà ce que... Ça, c'est le... C'est toujours dans le Concile. Il appartient aux exégètes de s'efforcer, suivant ces règles, de pénétrer et d'exposer plus profondément le sens de la Sainte Écriture, afin que par leurs études, en quelque sorte préparatoires, mûrissent le jugement de l'Église. Voilà. Et après, c'est au magistère d'interpréter, mais les exégètes préparent en quelque sorte le travail du magistère qui peut trancher sur certaines choses. Et les études bibliques, elles aident à comprendre le sens littéral. Ce n'est pas la même chose que le sens littéraliste. Hein, voilà. Le sens littéral, c'est qu'est-ce que l'auteur humain a voulu nous transmettre. Après, je vous dirai quelques mots sur les quatre sens de... Où je peux vous le dire tout de suite, sans vous faire cachotterie. Je crois que c'était par ici. Les quatre sens de l'Écriture. c'est quelque chose d'assez classique. On parle des quatre sens de l'écriture. Un sens littéral, c'est le sens que l'auteur humain a voulu donner, avec les formes littéraires qu'il a employées, etc. Il y a toute la question des genres littéraires, tout ça, j'y reviendrai un petit peu. Donc, littéral, c'est pas littéraliste, hein, c'est pas prendre à la lettre, c'est voir qu'est-ce qu'il a voulu dire, c'est différent. Et donc, il y a un sens littéral, et après, il y a le sens spirituel qui a trois dimensions, le sens allégorique, qu'est-ce que ça nous dit de Jésus, alors on pense aux prophéties, etc., ou au passage de la mer Rouge qui annonçait le baptême, voilà, des préfigurations. Il y a le sens moral aussi, parce que ça nous invite à agir de telle et telle manière. Et le sens, un grand mot, hein, anagogique, hein, ça nous oriente vers le ciel, etc. Mais je ne vais pas vous perdre dans ces quatre sens de l'écriture. Je reviens à l'exégèse qui fait attention à la dimension humaine pour voir qu'est-ce que l'auteur humain a voulu écrire. Alors, il y a plusieurs types d'exégèse. C'est très général, hein, ce que je vous dis, mais ça vous donne peut-être quelques repères un peu. Un premier type d'exégèse, c'est une exégèse plutôt textuelle. Hein. Vous avez vu, il y a des notes qui sont plus textuelles. C'est parmi tous les manuscrits, mais quel est le bon? C'est pour essayer de trouver le bon, de voir qu'est-ce qui peut-être a été rajouté dans un deuxième temps. Il y a des... Alors, je ne l'ai plus en tête ici, mais il y a... Par exemple, il y avait un verset dans une épître de Saint Jean qui nous parle de manière très explicite de la Sainte Trinité, donc c'était très bien pour... Sauf que les exégètes ont dit, non, ben ce verset, il est apparu quand même un peu tardivement. Au début, il n'y était pas. Donc, je pense que ça serait plus honnête de ne pas le garder, ce verset, même s'il dit des choses tout à fait vraies et qui nous arrangent bien. Mais non, parce que dans les manuscrits les plus anciens, on ne voit pas ce verset. Donc, vous verrez, quelquefois, il y a des versets, vous voyez dans les notes, il y a des versets où on dit, ben non, ce verset, on l'a retiré. Ça arrive pas très souvent, mais du coup, voilà, c'est essayer de comprendre. Alors, il y a des adages où souvent les copistes, ils simplifient un peu. Si c'est quelque chose qui est obscur, ils essaient de simplifier parce que on a envie de comprendre. Et ben, justement, un principe de l'exégèse, il vaut mieux garder le texte le plus compliqué. Il y a plus de probabilité d'être près de la source. Voilà. Enfin, il y a quelques principes qui guident les exégètes et qui... Alors ça, c'est la critique textuelle. Oui. Alors, je prends des grands mots. L'exégèse historico-critique. Là, c'est cette exégèse, ça resitue le texte dans le contexte historique. Par exemple, quand un texte était écrit pendant l'exil à Babylone, ou quand il a vécu sous le roi David, où le royaume était en paix, etc., le contexte est différent et du coup, il faut comprendre les textes différemment. Alors, ça, c'est le contexte historique. Après, il y a toute la question des genres littéraires. Par exemple, le genre littéraire de la Genèse n'est pas un genre scientifique qui veut relater premier jour, etc., faire une concordance avec la science. Là, il peut y avoir des liens avec la science, mais non, on ferait fausse route parce que c'est un genre littéraire différent. Il y a des genres qui sont plus poétiques, mais qui indiquent pas. Alors, je sais plus.
Est-ce que les paraboles en font partie?
Les paraboles, c'est aussi un genre particulier. Il faut pas le considérer comme un texte historique. Une parabole, c'est pas un texte historique. Mais il y a des. Mais dans notre langage, il y a différents genres. Si votre mari vous dit « Ah, ma biche !» Mais il veut dire quelque chose, mais il veut pas dire que vous avez quatre pattes et que vous avez de beaux yeux, certainement. Il veut certainement dire ça, mais du coup, c'est un genre littéraire, bien sûr. C'est pas une description biologique, enfin je sais pas. Voilà, donc il y a des genres littéraires, c'est très important. Il y a des genres aussi étiologiques, et on le voit beaucoup dans l'Ancien Testament où ils veulent nous donner l'origine d'un lieu, etc. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle ce lieu un tel. Donc c'est très. Par exemple, la tour de Babel, ça ne veut pas forcément décrire tel quel, que ça s'est passé tel quel, mais qu'est-ce que l'auteur, justement, a voulu nous dire en faisant ce récit? C'est intéressant de voir, parce qu'il a voulu nous dire quelque chose. Le récit du péché, est-ce que ça s'est passé exactement comme ça? Je ne le sais pas. Non. Mais en revanche, le message est clair. Du péché, de l'intervention du démon, etc. Donc, vous voyez, les genres littéraires, c'est aussi très, très important pour ne pas faire fausse route. Alors, ce n'est pas non plus mythologique dans le sens un peu farfelu et imaginé, et complètement... Non, c'est... Il a utilisé un certain genre littéraire pour exprimer une vérité. Et c'est cette vérité qu'on essaie de rejoindre de notre mieux. Alors, ça, c'est le travail des exégètes historico-critique. Bon, il y a les sources et les influences, etc. Par exemple, il y a des textes qu'on trouve dans la Bible et dans notre littérature, dans d'autres pays voisins. Alors, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de voir cette différence. C'est qu'est-ce qui est commun, mais qu'est-ce qui est propre, justement, à l'auteur biblique. Il a repris une histoire qui circulait, en fait. Pour nous, Gilgamesh, enfin, il y a différentes histoires comme ça qui circulaient. Mais il a changé quelques éléments et c'est très intéressant de voir ce qu'il a changé et ce qui est proprement parole de Dieu. Mais tout ça, ça demande beaucoup d'études pour des gens qualifiés que je ne suis pas. Voilà. Alors, après, il y a une exégèse narrative, rhétorique. Cette exégèse narrative, elle prend le texte tel qu'il est, et puis elle essaie de découper le texte, de voir comment c'est rédigé, etc. Elle n'est pas tellement dans l'origine du texte, hein, c'est de ce type d'exégèse, mais comment le texte est construit. Et son principe, c'est la Bible qui s'explique par la Bible aussi. Hein, c'est une présentation que je vous donne, il pourrait y en avoir d'autres, mais il y a ce qu'on appelle l'exégèse canonique. Il y a trois principes qui guident l'Église et qui doivent nous guider aussi pour interpréter l'Écriture. C'est que mon interprétation, elle ne soit pas en discordance avec l'unité de toute la parole de Dieu. Si c'est une interprétation qui est complètement étrangère au message de la Bible en général, on dit non, ton interprétation, je pense qu'elle est un peu... Il faut peut-être la revoir un peu. C'est aussi par rapport à la tradition. Si c'est quelque chose qui est complètement en dehors de la tradition, là aussi, il faut peut-être revoir un peu ta copie. Et puis après, il y a un autre principe, c'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi, c'est-à-dire la cohésion des vérités entre elles. Ça ne doit pas se contredire. Alors, certaines fois, il y a des textes de la parole de Dieu, c'est un peu comme de silex, ça fait des étincelles parce qu'on ne comprend pas tout de suite. Mais du coup, ça invite à creuser pour le comprendre d'une manière qui soit juste. Dieu ne se contredit pas. Alors, j'en viens à la deuxième partie. Il est presque temps, hein, au bout de trois quarts d'heure. Moi, je vais accélérer. C'est sur l'écoute de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, là, c'était plutôt comment j'essaie de la comprendre, etc., comment, avec le lien avec le lien parole de Dieu, écriture sainte, parole de Dieu, exégèse, etc. Mais l'important, finalement, c'est de s'en nourrir. Alors, il y a deux voies principales, je dirais. Un, c'est la voie de la liturgie et la voie de la prière personnelle. Ça ne s'oppose pas, bien entendu, ça ne s'oppose pas, mais c'est très différent. C'est très différent. Je parle très brièvement, je pense que j'aurais besoin de le retravailler, mais Dans la liturgie, la parole de Dieu est considérée comme un sacrement, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est un sacrement, la définition d'un sacrement, alors il y a les sept sacrements, mais plus largement, un sacrement, c'est le signe visible d'une grâce invisible. Et du coup, institué par Jésus-Christ pour notre sanctification. Mais pour la parole de Dieu, dans la liturgie, opère un peu à la manière d'un sacrement, dans le sens où on dit que c'est Jésus qui nous parle. Quand c'est pas la même chose de lire sa Bible dans son coin ou de proclamer la parole de Dieu dans la liturgie. Acclamons la parole de Dieu. Il y a une présence particulière du Seigneur qui nous parle en direct, on pourrait dire, quand la parole est proclamée dans la liturgie. Donc il y a quelque chose qui est très particulier à la parole qui est proclamée dans la liturgie, que ce soit bien sûr à la messe, mais aussi dans les offices. Il y a les psaumes qui sont paroles de Dieu, mais il y a aussi un capitule qui est souvent dit parole du Seigneur. Hein, mais voilà, il y a une présence particulière du Seigneur à ce moment-là qui veut nous parler dans la liturgie. Et il y a une dimension communautaire aussi dans la parole de Dieu qui est proclamée dans la liturgie. Il y a une dimension tout à fait communautaire où c'est Dieu qui parle à son peuple et son peuple qui lui répond. D'ailleurs, comment ça se passe les dimanches? Vous avez deux lectures plus l'évangile et après il y a l'homélie qui, j'espère, est intéressante. Bon. Et puis après, le credo. Le credo, c'est la réponse. Dieu nous parle, et le credo, c'est « je crois ». C'est notre réponse à Dieu qui nous a parlé. C'est dans la liturgie. Mais vous vous rappelez peut-être d'une liturgie de l'Alliance. Je crois que c'est dans l'Exode, chapitre 24, si mes souvenirs sont bons, le renouvellement de l'Alliance. Alors, tous comme un seul homme, oui, nous le ferons, etc. Mais du coup, s'il y a un dialogue entre Dieu et son peuple, et donc c'est une réponse aussi communautaire qu'on fait dans le credo, qu'on dit ensemble. C'est pas simplement ma réponse individuelle, mais c'est vraiment tout le peuple de Dieu qui répond à son Seigneur. Voilà. Alors donc, c'est un contexte très différent, la lecture de la parole de Dieu dans la liturgie, ou alors chez soi, dans la Lectio Divina. Donc c'est un peu court ce que je vous dis sur la liturgie, mais on avance pour que vous puissiez rentrer chez vous quand même un jour. Alors la Lectio Divina, ça ira vite parce que je vous en ai parlé ce matin. Dans les préliminaires, je ne vous avais pas du tout les préliminaires. J'avais surtout parlé d'invoquer l'Esprit Saint, mais en même temps, c'est déjà de décider de lire la parole de Dieu. La première chose, c'est de voir dans notre emploi du temps quand on peut prendre un peu de temps pour lire la parole de Dieu. Si on fait la Lectio Divina un peu comme je vous y ai invité ce matin, ça se fait pas en 5 minutes. Ça demande d'avoir un peu de temps devant soi, alors que certains, ça peut être... pas un jour où ils sont plus disponibles, c'est pas forcément le dimanche, il y a tous les enfants, et voilà. Mais après, de voir quel est le moment qu'on peut consacrer pour se nourrir de la parole de Dieu. Vous avez peut-être encore cette image du Père Caffarel qui avait ce lieu où on se nourrissait de la parole de Dieu pour ensuite, après, aller faire oraison. Mais dans notre prière personnelle, si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, on finit par tourner en rond. La prière, c'est d'abord écouter Dieu avant de lui parler. Donc, c'est important pour ça de trouver, alors chacun voit comme il peut, mais trouver comment il peut consacrer un peu de temps à cette... Très concrètement, c'est choisir un texte. Aussi parce que la Bible, c'est quand même, ça fait quand même pas mal de pages. Alors, de voir, est-ce que je lis un évangile petit à petit, est-ce que je prends les lectures du jour, est-ce que... Après, c'est chacun qui voit, hein, mais mon expérience, c'est que si j'arrive pour la lecture sans avoir choisi mon texte avant, je perds déjà du temps, voilà. Donc, mais si déjà j'ai pensé un petit peu, voilà ce qui serait important pour moi aussi de travailler, peut-être, à ce moment-là, ben, je m'attache. Alors moi, je suis un peu utilitariste, hein, c'est pas bien. Hein, Mais souvent, j'essaie de voir, mais qu'est-ce qui serait bien que j'approfondisse? Et à ce moment-là, je prends les textes de la parole de Dieu qui correspondent et j'essaie de les travailler. Mais après, c'est vous qui voyez. Après aussi, pour la lectio, c'est d'avoir un environnement propice. Le métro, c'est peut-être pas l'environnement le plus favorable pour lire paisiblement la parole de Dieu, aller voir dans vos notes, etc. Mais bon, après, on n'est pas tous fait pareil. Mais quand même, voilà, enfin, je... Donc, je vais peut-être plutôt vous laisser me parler maintenant pour poser des questions sur la lectio par rapport à ce matin. Et puis après, il y aura la troisième partie et sur notre réponse à la parole de Dieu. Mais puisque là, je ne vais peut-être pas répéter ce que vous avez peut-être fait très bien sur la lecture, la méditation, la prière et la contemplation. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont questionné ce matin et vous voudriez qu'on aille un peu plus loin ou quelque chose que vous souhaitez que j'approfondisse sur ces différentes étapes de la lectio, notamment la lecture, la méditation et puis après l'oraison.
Je pense que c'est plus au niveau du temps. Est-ce que, comme ça, la prière personnelle, vous parliez aussi de la lectio, c'est aussi la prière personnelle, mais on se définit un temps. Mais est-ce que, au niveau de la lectio, est-ce qu'il faut aussi se déterminer un temps? Parce que des fois, ça peut prendre du temps.
Oui.
Et est-ce que ça va venir en disant, mais si ça me prend tant de temps, je ne vais pas faire ça tout le temps. Ou alors, vraiment, il y a un délité, je ne sais pas si c'est important.
Alors, peut-être au début, vous tâtonnerez un petit peu au début. Je pense qu'on n'arrive pas après, on dispose d'une demi-heure, on fait ce qu'on peut avec la demi-heure. Mais du coup, on organise un peu son temps pour pas... je vais pas... j'ai regardé 3-4 parallèles, c'est bon, maintenant je passe... mais en plus, alors je pense qu'il faut organiser un peu son temps, comme pour beaucoup de choses. Si vous voulez arriver au but, il faut quand même voir un peu. On est contraint par le temps quand même. Mais alors ça, c'est un point que peut-être il faut que je revienne dessus. C'est que l'important, c'est que vous soyez en communion avec le bon Dieu. Si à la première parole, vous êtes déjà en extase, arrêtez-vous là. C'est pas la peine d'aller creuser. Si Dieu déjà vous parle au cœur, c'est pas la peine d'aller plus loin. Par exemple, ça c'est important. La lectio est très importante et je pense que c'est bien. Mais en même temps, quand Jésus a fait retentir à Saint Antoine du désert, il a écouté la parole et puis viens, suis-moi. Il lui a pas demandé de faire 3 heures de lectio divina et il fallait qu'il y aille. Ou Saint François d'Assise, il a entendu le prêtre parler, c'était à la portion culte sur, c'était le départ en mission, etc. Saint François, mais c'est ça que je veux vivre. Alors il est allé voir le prêtre pour lui expliquer. Mais oui, c'est exactement ça. Mais du coup, là, il a pas eu le temps de faire 3 heures de lectio. Déjà, Jésus lui parlait. Donc il faut pas, être trop rigide non plus, parce que peut-être que, et Dieu il sait ce dont on a besoin, donc peut-être mais certaines fois il faut une longue recherche. Alors je vous cite par exemple Thérèse de Lisieux. À plusieurs moments, par exemple, j'ai retenu, mais je ne vais pas vous les lire, vous les connaissez certainement, c'est quand elle a inventé sa petite voix. Alors elle cherchait dans la parole de Dieu, son réflexe était de chercher dans la parole de Dieu. Alors c'était une autre manière aussi, elle tournait les pages, oui. Et puis, à un moment elle voit qu'il prend dans ses bras, il serre contre... j'ai trouvé mon ascenseur. Voilà, la petite voix c'est pour les petits, c'est pas pour les grands. Et, bon alors c'est sa découverte de la petite voix. Et puis au moment où elle dit dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Là aussi, elle cherchait, mais non, moi, je voulais être tout, je voulais être les apôtres, je voulais être prêtre, je voulais être... Et puis non, il y a des choses que je pouvais pas. Et du coup, mais ça me laissait pas en paix, donc elle a continué à chercher, elle feuilletait Saint-Paul et tout ça, jusqu'au moment où elle arrivait sur... Mais il y a donc une surface sous les autres, la charité. Et c'est là qu'elle a senti que ça répondait vraiment à sa quête. Mais on voit qu'elle a pris du temps, elle ne l'a pas trouvée tout de suite non plus. Hein, mais pour la Lectio, souvent c'est un peu laborieux, pas toujours, mais je pense que c'est bien d'y consacrer un petit moment, enfin, quand vous pouvez, mais après, selon... Alors, il faut choisir un moment qui soit raisonnable. Vous pensez qu'une demi-heure, c'est bien, tel jour de la semaine, ben, vous y consacrez, puis vous organisez au mieux votre temps. Pour... Mais si Dieu vous surprend et qu'il vous parle en direct, ben, lui dites, non, tais-toi, je suis en train d'étudier. Non, à ce moment-là, le but, c'est pour nous parler, hein. C'est pour mieux. Alors, s'il vous parle en direct, c'est pas le moment de le faire taire, quoi.
Non, mais je t'appelais par rapport à ça, parce que quand on fait une lecture seule, c'est pas pareil du tout que la lecture en groupe. Là, on est obligé d'être du temps, on est obligé de mettre un temps bien défini.
Mais après, ça dépend un peu aussi en seul, oui, il faut. Ça dépend de vos disponibilités, si vous avez beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps. Hein, mais certaines fois, dans nos vies sont souvent bien occupées. Donc, mais voilà. Je préfère consacrer, mettons, une demi-heure, mais être sûr, plutôt que, bon, le jour où j'aurai envie, je y consacrerai 2 heures. Non, il vaut mieux être un peu régulier quand même. Et puis, voilà. C'est... D'autres questions sur la Lectio? Je continue, je termine. Je termine. Alors, après, donc, la troisième partie, c'était notre réponse à la parole de Dieu. Alors, avant de parler de la réponse, vous avez beaucoup de textes de la parole de Dieu. On voit que la parole est efficace. Vous voyez dans la Genèse, Dieu dit et cela fut. Hein, ou on le voit aussi à d'autres moments. Non, je ne vais pas citer trop l'hébreu comme Père Pierre Dominique, mais alors, et on voit que ça se réalise en Jésus et ça impressionne beaucoup ce qui est. Il dit quelque chose à la maladie et ça se, elle obéit, ou il est au vent et il obéit. Donc ils sont un peu interloqués aussi de cette puissance de la parole de Jésus. Et quand le centurion de l'évangile parle, dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et il commente « Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. » L'un dit « Je vais et il va, un autre vient, il vient, à mon esclave fait ceci, il le fait. » Et toi, ben, dis à la maladie « Pars !» Et puis elle partira. Hein, donc c'est cette fois la parole de Jésus qui est une parole efficace. Voilà. Alors, mais quand il s'adresse à nous, habituellement, il attend de nous une réponse. Il ne nous oblige pas. Et je dirais que c'est un peu schématique, mais la première de nos réponses à Dieu, c'est de la foi. Dans Dei Verbum, hein, ce document fondamental du Concile sur la parole de Dieu, c'est à Dieu qui se révèle et dû l'obéissance de la foi. On répond à Dieu par la foi. C'est notre réponse. Comme dans la messe, Dieu nous parle, je crois. J'accepte ce que tu me dis. Je comprends. Alors, je crois, ça ne veut pas dire que je comprends tout. Hein, mais je crois. Saint-Pierre, encore une fois, pour le discours du pain de vie, il disait, je crois, mais... je comprends. Non, il n'a pas dit, je comprends. Il a dit, je crois. Et parce qu'il faisait confiance à Jésus. Et notre première réponse à la parole de Dieu, c'est cette foi. Vous avez ce verset de la première épître aux Thessaloniciens. Voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Donc ça dit bien, voilà, c'est d'avoir une attitude de foi vis-à-vis de cette parole qui nous est annoncée. C'est la foi. Et l'autre réponse, c'est de mettre en pratique ce que Dieu nous... je vous cite Saint Jacques, c'est souvent assez direct, Saint Jacques. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous, c'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait pour vous faire illusion. Car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est, et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute non pas pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. C'est aussi dans la mesure où on met en pratique certaines paroles qu'on les comprend. Il y a des choses, il ne faut pas attendre forcément de comprendre pour mettre en pratique. Même Marie, elle a cru en la parole qui lui a été dite de la part du Seigneur, comme dit Élisabeth, mais comprendre exactement comment ça se passerait, c'était sans doute pas parfaitement clair pour elle. Elle a dit, je fais confiance, je crois, fiat, qu'il soit fait en moi. Bon, après, pour l'écoute de la parole, il y a beaucoup d'évangiles qui en parlent. Il y a l'évangile du semeur, avec les différentes manières d'écouter. Après, il y a aussi, faites à la manière dont vous écoutez, et puis du coup, juste après, c'est, voilà, vous n'êtes pas appelé à mettre la parole sous le boisseau. Et puis, oui, il y a cette mise en pratique qui est encore... Alors, on revient à Marie, quand même. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Et c'est en ça que Marie aussi est grande, bien sûr, d'avoir mis Jésus au monde. Mais c'est quand même une parole assez forte de saint Augustin de dire, mais pour elle, c'était plus près... Elle était disciple... avant d'être la mère. Elle a d'abord mis cette parole en pratique et après elle a été signée. Voilà. Donc on peut demander à Marie de nous aider à mettre la parole en pratique, et de l'écouter, de l'entendre, de la laisser résonner en nous. Et voilà. Mais est-ce que vous avez des questions ? Alors, je pense qu'il faut essayer autant que faire se peut de la comprendre, mais il ne faut pas s'obstiner non plus. Peut-être qu'on n'est pas mûr pour la comprendre, ou que peut-être qu'on apprend moins. Mais en même temps, vous sentez, il y a des choses, c'est quand même intéressant d'y travailler un petit peu, comme quand on a des questions. Alors, on essaie de trouver une réponse, on ne la trouve pas forcément, et puis on continue quand même notre chemin. Mais on fait quand même travailler notre intelligence, on demande conseil, c'est pas ou l'un ou l'autre. S'il y a quelque chose, une parole qu'on ne comprend pas, on essaie de la comprendre mieux, sachant que quelquefois c'est pas blanc ou noir. On comprend un petit peu, on entrevoit ce que ça peut vouloir dire, mais on voit que c'est pas encore pleinement clair, c'est pas tout à fait clair. Donc c'est pas... Mais je pense qu'il faut aussi essayer de creuser. Un petit peu comme la petite Thérèse, elle n'était pas satisfaite des réponses qu'elle avait. Donc, elle a poursuivi. On voit bien qu'elle est un peu tenace quand même pour essayer de comprendre. Et il y a des choses, pendant un certain temps, elle n'a pas compris. Et puis, un beau jour, voilà, le ciel se déchire, elle comprend tout d'un seul coup. Mais entre-temps, elle a essayé de comprendre. Elle a essayé, comme elle le dit, mettre son pied sur la première marche. Et puis un jour, Dieu la prend et la monte en haut de l'escalier. Mais c'est un peu ça aussi pour nous, je pense. On essaye, on n'est pas garanti, assuré de réussir, mais on essaye.
C'est comme ces étapes. On a l'impression qu'il y a plus de profondeur, puis on arrive à se dire, tiens, en fait, ça vous déporte encore. Puis il doit y avoir encore plus.
Oui, alors il y a des choses aussi, c'est vrai, c'est comme dans le brouillard, on avance et petit à petit le paysage s'éclaircit devant nous, mais c'est vrai, c'est, voilà. Je pense qu'il faut continuer à essayer d'avancer, même si on ne comprend pas tout, quoi. Aller jusqu'au bout de la lumière qu'on a déjà reçue, et puis, sachant que, encore une fois, c'est intéressant aussi parce que la parole de Dieu, elle nous dépasse, donc c'est un don aussi qu'on demande à Dieu de nous faire comprendre, mais peut-être qu'il n'a pas envie, enfin, c'est pas d'actualité, pour, c'est pas encore...
Dans le texte de Cana, de Saint-Martin, il y a une phrase que voilà, je dois bien expliquer un petit peu. Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le bon vin. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent.
Alors bon, il peut y avoir plusieurs niveaux de sens. Là, clairement, dans les mariages, ils savaient comment faire. Une fois qu'ils étaient un peu sous, ils pouvaient passer leur piquette. Mais après, justement, il y a un sens immédiat, je pense, et il y a plusieurs... Mais justement, Saint Jean est assez spécialiste aussi pour ça, de prendre différents niveaux de sens. Comme on voit bien avec la Samaritaine, il y a différents niveaux de sens. Alors il joue sur différents niveaux de sens, mais justement pour relever aussi que voilà, ce que donne Jésus est infiniment meilleur. Mais alors après, il y a un sens plus profond justement parce que alors après, c'est une interprétation, mais c'est Jars qui savait aux ablutions rituelles des Juifs, justement, c'est quelque chose qui est transformé en quelque chose de meilleur grâce à Jésus. Voilà. Enfin, après, c'est des interprétations qui ne sont pas forcément canoniques, ou je ne sais pas, après. Oui, ça peut nourrir notre prière sans être non plus entré dans la savante théologie. Hein.
Il y a une question que je me posais, je n'arrive pas trop à faire la différence entre la parole de Dieu et l'Écriture sainte. Parce que vous dites que la parole de Dieu, elle est inscrite dans Dieu, et l'Écriture sainte aussi. Non ?
Alors, ce que je veux dire, c'est que l'Écriture sainte, vous l'avez là. Qui est traduite en français ici pour que je puisse la comprendre, sinon j'aurais du mal. Mais la parole de Dieu, ça c'est le contenant en quelque sorte, le contenant de la parole de Dieu. Mais en même temps, la parole de Dieu déborde sur le contenant parce qu'elle est plus grande. Sitôt que. Oui, ou contient la parole de Dieu, mais et en même temps la parole de Dieu les déborde. Ça n'épuise pas la parole de Dieu. Mais parce que Dieu se sait. Alors, on va dire les choses autrement. Quand vous vous exprimez à quelqu'un, vous avez une pensée que vous voulez. Alors, vous employez des mots qui sont plus ou moins adroits, plus ou moins qui disent plus. Pas forcément exactement ce que vous voulez dire, mais il faut bien trouver des mots pour dire ce que... Surtout certaines choses qui nous touchent plus intimement, on essaie de trouver des mots pour le dire. Alors, l'Écriture sainte, c'est les mots qu'on essaie de... Mais la parole, c'est l'idée que vous voulez transmettre à travers ces mots. Ça pourrait être un peu ça. Et cette idée, elle dépasse les mots. Mais il faut bien trouver des mots pour dire ce qu'on a à l'intérieur. Le texte n'est qu'un moyen pour exprimer une pensée de Dieu, on pourrait dire. Et
on parle de lecture divine que justement sur la parole de Dieu, sur un texte dans le temps de l'Église, pas de
non, après, alors ce serait une lecture spirituelle, mais elle n'est pas divine, cette parole. Tandis que justement, la parole de Dieu, elle est de Dieu. Donc c'est... Alors, là aussi, c'est très bien de prendre des livres de spiritualité. Je pense que c'est nécessaire aussi. Mais comme le disait bien la petite Thérèse, à certains moments de notre vie, peut-être, les livres de spiritualité, ça ne nous suffit pas. Et je pense que de toute façon, les livres de spiritualité ne sont là que des serviteurs de la parole de Dieu, mais ils ne remplacent pas la parole de Dieu. Donc, si vous pouvez prendre les livres... Je vais mettre un pavé dans la mare, non, c'est peut-être pas bien. Vous pouvez peut-être bien prendre Maria Valtorta pour faire votre oraison, je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, il faut distinguer les livres de spiritualité, même s'ils sont... si on peut beaucoup les aimer, s'ils peuvent beaucoup nous aider pendant tel ou tel moment. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Et le magistère est toujours attentif à ça. Qu'on ne mette pas il y en a qui aiment bien lire les livres de Don Gobi, etc. C'est très bien ce que dit Don Gobi, il nous rapporte des paroles de la Sainte Vierge et tout ça, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Donc ça peut nous aider vraiment dans notre vie spirituelle, donc tant mieux. Mais il ne faut pas que ça prenne la place de la parole de Dieu.
Quand on dit parole du Seigneur, enfin les textes, quand on dit les lettres de Saint Paul et tout ça, c'est aussi la parole.
Oui, oui, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas que l'évangile qui est parole de Dieu. C'est tout ce qui... Et là, on le dit dans le cadre de la liturgie, où alors vraiment c'est Dieu qui était là, qui nous parlait. Alors, je ne vous ai pas cité tous les documents, mais Benoît XVI a écrit une encyclique, Verbum Domini, c'est en 2008, je crois. C'était à la suite du synode sur la parole de Dieu, justement. Donc, il y a des très beaux passages aussi. Mais alors, lui est très attaché à la liturgie aussi, Benoît XVI était très attaché. Et donc, il nous dit comment il y a cette présence de Dieu qui nous parle dans la liturgie. Donc là, il en parle bien, je trouve. Mais oui, c'est tous les textes qui sont paroles de Dieu. Pour prendre conscience que Dieu...
Vous l'avez dit sur le credo, ça éclaire énormément. Ça éclaire toute la première partie de la messe.
Oui, ça fait... Oui, ça conclut en quelque sorte cette première partie de... C'est notre réponse à la parole de Dieu, le credo. On conclut. Et la prochaine fois, c'est à la mi-novembre. Le thème, c'est l'intériorité, la prière intérieure, qui est très caractéristique de la Sainte Vierge aussi. Alors, c'est aussi une magnificat, et voilà, mais habituellement, on présente plus Marie comme très intérieure. Donc, ça sera sur cette intériorité.